a pas tellement des événements extérieurs qui me touchaient. C'est le plan de mon travail à moi. Mais j'étais en même temps une position d'observateur. J'avais commencé à enseigner quelques années auparavant. J'ai vu.
En 78, t'étais pas au Beaux-Arts. Au Beaux-Arts.
J'ai commencé en 65 à enseigner.
Au Beaux-Arts.
Okay. Au Beaux-Arts, c'était avant l'UQAM. J'étais au Beaux-Arts les dernières années de l'école. Et puis, c'était disons, la première fois de ma vie que j'avais une position d'observateur telle que celle d'un professeur. Il n'y a pas un enseignement, il y a l'observation aussi. On est témoin. Plus qu'autre chose, bien souvent. Mais c'est surtout comme observateur qu'on a des choses à dire sur la période.
Mais en 78, as-tu quitté pour Laval? C'était en 70?
Non, Laval s'était créé en 70.
Il est allé là en 70.
Et puis, ils m'ont engagé comme conseiller spécial. J'étais resté à l'UQAM, mais j'allais une journée par semaine à Laval. Je pense que j'ai fait ça 2 ans. J'ai fait ça 2 ans. J'allais une journée par semaine à Laval. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis aperçu que le programme où j'étais embarqué à Laval m'intéressait assez. Que je pouvais y mettre un travail à plein temps. C'est là que je suis entré à plein temps à Laval, 72, je pense, ou 73. Et puis j'ai laissé l'UQAM à ce moment-là. Mais je n'étais pas certain au début, à Laval, que je ne serais pas, pendant un an ou deux, un conseiller pour aider à conseiller technique, pour aider à faire démarrer un secteur du programme. Et puis après ça, ben, je laisserai tomber ça, les autres continueraient. Puis, je continuerai ma job.
Quelle année t'es arrivé à Concordia?
76, je pense.
C'était 67.
Là, je commence la 7e année.
75 alors. 77-80.
J'étais à la main 6 ans.
C'est ça. 62.
2 ans.
2 ans comme conseiller. 4 ans comme professeur.
2 ans comme professeur, là, statut spécial, là, temporaire.
Quelle année tu as déménagé à Sainte-Madeleine?
72.
72. Au moment où tu en allais à Laval, quoi.
Ouais, c'est pas tout à fait hasard.
Une relation de cause à effet, quoi.
Il y avait une question de distance, de voyage, de distance de route. Je suis en Transcanada. Je connais la Transcanada, il est vite.
Et il est revenu à Montréal. À prendre dans son plus petit pouls.
Mais dans tes questions, là, la première, y a-t-il eu changement ou transformation dans l'image de chacun? C'est une question qui exige de se demander s'il y a eu une évolution due à une concordance de facteurs vers 68.
Oui, c'était pas de facteur vers 68, mais durant la période à partir de 68, il y a eu changement ou transformation. C'est plusieurs changements ou plusieurs transformations.
Oui. Ouais. Je comprenais, moi, qu'il y a peut-être eu une évolution marquée par une concordance d'événements vers 67-68. Une évolution qui n'aurait pas eu les mêmes caractéristiques. S'il n'y avait pas eu cette concordance d'événements en 68. Est apparu en 68 en Europe comme en Amérique une critique absolument virulente du statut d'artiste. Je pense que cette nouvelle critique-là était bien plus influente que n'importe quel autre facteur. Que les courants artistiques new-yorkais, que l'apparition de musées d'art contemporain ici, ou que l'apparition de certaines galeries dans
Disparition,
l'Ouest,
certaines
ou la
choses.
disparition des choses comme ça. Moi, j'ai eu l'impression comme observateur, non? Qu'est-ce qui a travaillé le plus profondément les gens qui étaient dans le milieu artistique, c'était la critique. Critique radicale du statut d'artiste.
Tu l'as senti, ça?
Oui, parce que c'était tellement évident. C'est ce qui était le plus remarquable du point de vue de quelqu'un qui était un praticien et puis qui se trouvait dans la position de témoin, puis d'observateur, puis peut-être d'intervenant dans une école à titre de professeur. Ce que je voyais le plus, c'était justement les effets d'une critique radicale de l'artiste comme classe sociale.
Ça t'a affecté?
Dans mon travail?
Ou toi-même dans ton travail?
Non, pas tellement parce que mon travail était fondé depuis fort longtemps sur ce genre de critique radicale de l'artiste. Donc je trouvais intéressant de voir apparaître cette critique en surface, là.
Que tu avais tenu de façon personnel, quoi. Tu avais soutenu ou présenté. Donc, tu l'as beaucoup.
J'ai pas contribué, manifestement, là, à l'apparition de cette critique-là. Ça s'est passé sans moi.
T'es comme tout le monde, pris avec.
Pas mal pris.
Pris avec.
Oui, j'étais là, ça se passait. Puis, dans le milieu artistique, en tout cas, c'était le courant de pensée le plus puissant, à mon avis, à l'époque. Et puis qui est encore actif, il y a encore un mot du paquet de gens en train de récupérer.
Récupérer quoi?
Récupérer de la fatigue d'avoir pris des positions radical, pour, contre, ou de ceux qui ont fait des efforts extraordinaires pour conserver une espèce de neutralité, ça a véritablement figé des attitudes. Et puis encore maintenant, je pense que je pourrais, en conversant là, avec des artistes qui ont été témoins, aussi, même si je ne les ai pas connus à l'époque, je pense que je pourrais déceler quelle était leur position en 68, 69, 70. Enfin, ceux qui ont été mêlés à ça, parce que tout ça a été perçu comme une montée subite de gauchisme échevelé. Bon, tous ceux qui se voyaient comme étant une espèce de gauche se sont dépêchés d'appuyer ce qu'ils croyaient être une critique radicale de gauche. Et puis tous ceux qui se croyaient de tempérament conservateur se sont empressés d'opposer des résistances.
As-tu des individus, des noms, quand tu parles, quand tu dis ces gens-là? Ils sont des cas manifestes, plus manifestes plutôt.
Non, mais je ne serais pas à l'aise de donner des noms parce que.
Je te demandais des noms dans la mesure où, historiquement, c'est-à-dire dans le niveau au niveau public, s'il y a des noms. Je te demande pas de décrire tes relations avec.
Ceux qui se sont sentis le plus menacés, c'était les professeurs d'art de carrière. Parmi les professeurs d'art de carrière, hein, il y avait quelques générations quand même. Il y avait les plus jeunes, il y avait les professeurs d'art moyen, puis il y avait les professeurs anciens. Mm-hmm. Généralement, comme d'habitude dans ces circonstances-là, les plus âgés ont eu un réflexe conservateur. Chez les professeurs plus jeunes, il y avait une tension là, interne. Il y en a plusieurs qui se demandaient s'ils devaient accorder leur sympathie aux contestataires ou s'ils devaient se ranger du côté de leur professeur aîné.
Mais,
qui avait le même statut dans les institutions d'enseignement de l'art.
Mais jusqu'ici, tu parles des professeurs. Est-ce que ça a changé l'enseignement? Dans les écoles d'art, ça en a fait plusieurs. Ou c'était une vague qui a passé.
Ça a obligé les éléments les plus conservateurs à renforcer leur position dans des secteurs d'enseignement où il était possible de maintenir un enseignement traditionnel. Ça a en même temps ouvert la porte dans les mêmes écoles à des gens qui souhaitaient un enseignement d'un type complètement nouveau, l'enseignement de l'art complètement nouveau. Ça a ouvert la porte en même temps de l'expérimentation dite pédagogique.
C'est pas le nom.
ce qui fait que maintenant, 14 ans après 68, là, les écoles d'art connaissent des divisions internes, des factions idéologiques qui n'ont pas encore trouvé moyen de faire une conversation raisonnable.
Ça, parles-tu entre les écoles ou à l'intérieur de la même école?
À l'intérieur de chacune des écoles, il y a des factions qui sont figées dans les attitudes. Parce qu'en 68, 69, 70, les attitudes ont été... Vu que la critique a été radicale, la réaction a été radicale. La gauche comme la droite sont figées dans des attitudes. Et puis, même longtemps après, c'est comme des chicanes de famille. Ça dure des générations. Ce qui fait que les tensions qui ont été créées, qui sont apparues dans ces années-là, 68, 69, sont encore là. Les tensions se sont installées dans les institutions. Mm-hmm. Les institutions étant inertes, ces tensions-là peuvent demeurer inertes pendant des siècles. Ce qui fait que la tendance critique ne critique plus, occupée à défendre sa position de gauche radicale, puis à la maintenir, c'est devenu une activité conservatrice. Mm-hmm. Et puis, les plus conservateurs maintiennent leur position dans l'espoir nostalgique d'un retour à une situation pré-critique radicale. Mm-hmm. Ça a duré longtemps. Tout le monde est en train de tourner en faïence, là. Mais ça continue d'influencer.
Et là, tu dis que finalement, la crise de 68, ce qu'elle a fait surtout, c'était de consolider les institutions.
Ça a permis aux institutions d'englober, d'intégrer la critique. Au prix de figer les personnes, les attitudes, et puis de rendre l'élaboration de programmes intelligibles impossible. C'est le prix que les institutions payent. Le prix que payent tous ceux qui payent pour les institutions. Mais les attitudes qui sont développées, qui sont apparues à ce moment-là, sont toujours là.
Autrement dit, les pôles sont radicalisés, sont figés dans leur position, et on vit toujours les personnes figées dans ce qu'ils se sont, comment ils sont placés à ce moment-là. C'est-à-dire, ils sont donné une image progressiste, ils sont obligés d'être progressistes, ils sont donné rationnel, mais finalement, ils sont toujours tous là, quand même.
Ceux qui ont pris la pose gauchiste, ils ont toujours la même pose. Ils n'ont pas évolué. Et puis ceux qui ont réagi de façon conservatrice, ils ont toujours leur même pose eux aussi. Et puis 10 ans, il n'y a rien qui bouge.
Bon, on dit, la raison dont tu parles,
on connaît,
ça serait presque tuer.
on connaît d'avance les deux types de discours. Des formules. Et puis les institutions scolaires, ça ne les dérange pas tellement. Il peut y avoir 2, 3, 10 discours différents dans la même institution. L'institution demeure.
Puis toi-même,
les conservateurs ne connaîtront pas la satisfaction. Et puis les critiques sont réduites à l'impuissance, puisqu'ils sont devenus eux-mêmes piliers des institutions qui critiquaient au départ. Ils sont devenus des membres de la grande famille.
Je veux te dire que depuis 1968, finalement, l'enseignement dans son état, dans sa possibilité de création, d'affirmation, est devenu quelque chose de tout à fait inexistant. Et l'enseignement est devenu institutionnel et rien de plus, dans son ensemble, depuis 1968.
C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'enseignement. Et puis, de plus en plus de construction défensive des positions établies de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Tout le monde est en train de construire des fortifications autour de ces. Construire des décors, des théâtres autour des poses qu'ils ont adoptées. Ça ne me semble pas bien utile en termes d'enseignement, si on y croit encore à l'enseignement.
Mais toi, comme
évidemment,
professeur, y crois-tu encore?
Évidemment, si on n'y croit pas.
Y crois-tu encore, toi?
L'enseignement est de nature. Tout organisme vivant doit recevoir un code de comportement de ses parents à son niveau. Il y a un enseignement. Que les institutions qui prétendent enseigner soient capables de le faire, ça c'est une autre question.
Si je te la posais la question, est-ce qu'ils sont capables de faire les institutions?
De moins en moins, ici en tout cas, là, depuis 70.
Pourquoi?
Parce que tout le monde a adopté des poses, des attitudes.
Autrement dit, s'il y a une faiblesse d'enseignement, c'est dû beaucoup plus aux individus qui le propagent qu'autre chose.
Il est difficile de de réexaminer toutes les questions d'art traitables dans le cadre scolaire, si les attitudes sont déterminées d'avance depuis 1968, les attitudes sont toutes faites. Ceux qui ont pris la pose gauchiste vont toujours avoir un réflexe, ou du moins un vocabulaire gauchiste. Ceux qui ont adopté d'autres positions, positions conservatrices, positions défensives, ils vont tout faire pour protéger leur forteresse. Il n'y a pas de... il n'y a plus de critique possible. Il n'y a pas de communication véritable. L'institution est capable facilement de tolérer des éléments qui ne se parlent pas. Des groupes de professeurs qui peuvent faire carrière sans parler à un autre groupe de professeurs dans la même école, pas de problème.
Mais toi qui as fait trois universités, UQAM, Laval, Concordia, est-ce que dans les trois, on peut dire que c'est la même chose?
C'est la même chose.
Avec des images différentes, peut-être. Mais, tu es professeur, comment toi tu réagis, c'est-à-dire, dans le comportement quotidien, n'importe lequel, dans ton enseignement, à la suite de ce 68 dont on parle? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans l'enseignement, ou non? Je pense que dans ton cas, c'est non. Mais, il y a aussi le fait qu'il faut le dire. Tu as quand même été responsable du programme maîtrise de Concordia, que tu es responsable d'instaurer un nouveau programme à Laval.
Pas responsable du
programme. Initiateur, peut-être.
C'est que j'ai porté un chapeau de directeur un certain temps. Le chapeau ne m'a pas rendu responsable. Je ne me sens pas responsable. Encore moins que tu parles.
Mais comme professeur, est-ce que ça a changé quelque chose ou tu continues sur le même lancé?
Comme professeur, j'ai été obligé d'essayer de comprendre quels étaient les comportements possibles des étudiants dans des circonstances comme celle-là. Bon, mettons des étudiants qui ont un peu de curiosité, qui auraient envie d'apprendre des choses. Au bout d'un certain temps, il découvre que tout le monde est figé, les musées tirent, des gauchistes d'un bord, des conservateurs de l'autre, puis des prudents à peu près au centre, mais tout le monde en cire, les égrévins. Alors les étudiants aimeraient quand même apprendre quelque chose à travers tout ça. Ils magasinent, ils font tout, puis ils cherchent, il n'y a pas une de ces stances qui tirent. Dire quelque chose d'intéressant qu'ils pourraient utiliser eux comme étudiants au stage de leur vie, là, l'apprentissage de l'art où ils sont jeunes, puis où ils espèrent que leurs aînés pourront leur montrer quelque chose, ou les laisser aller, ou tout découvrir tout seul. Bon, les étudiants se rendent assez rapidement compte qu'il n'existe pas de concertation dans les écoles entre ceux qui devraient enseigner, entre ceux qui devraient structurer des programmes. Des programmes capables de transférer des connaissances.
Comment étudier que l'étudiant est complètement laissé?
L'étudiant est tout seul. Il est obligé de magasiner, il est obligé de chercher, il est obligé d'apprendre en l'absence d'un enseignement, il veut quand même apprendre des choses. Il est obligé d'apprendre des choses de gens qui radotent constamment les mêmes slogans depuis 15 ans. Les gens, ils sont figés, ils ne vont plus évoluer. Ils ne vont plus repenser, ils ne peuvent plus faire table rase. Parce que leur vanité est là, leur carrière est là, leur sécurité est là, tout est en eux. Il faut qu'ils gardent la pause. Les étudiants arrivent là-dedans, ils découvrent qu'ils sont comme dans un centre d'achat. Plutôt que dans un centre d'achat, les vendeurs sont plus agressifs, ils n'ont plus de marchandises, c'est de la Et puis cette constatation de la part des étudiants entraîne chez eux une méfiance généralisée.
Face à quoi? La connaissance
face
en
aux,
soi?
Face, face, aux in, face aux institutions qui prétendent enseigner les choses de l'art, face aux membres de l'institution qui ont le titre de professeur. Face aux autres institutions comme musée, galerie, la critique d'art, l'histoire de l'art, qui apparemment sont toutes complices de cette école musétive. Les étudiants sont obligés de se comporter un peu comme une petite pègre. Ils savent qu'ils ne sont pas encadrés. Ils sont dans la rue. Ils deviennent streetwise, street smart.
Bon, ce que tu décris finalement, c'est un état d'anarchie complet.
Ça l'est. Ce qui règne te raconte sur le programme de maîtrise de Concordia, qu'est-ce qu'elle peut raconter autrement que l'histoire d'un désordre total.
Ce qui n'était pas le fait en 65, quelque chose comme ça. Ou dans ces années-là. Parce que présentement, c'est ça, ce qu'on arrive, qu'on est quasiment dans un état, comme tu le dis, dans la façon dont tu le décris plutôt, c'est qu'on serait dans un état de complet désordre. Est-ce qu'on
les
avait écoles, ça avant?
Les écoles avant 67, 68, 69, les écoles, les programmes dans ces écoles-là, l'école d'art, les programmes étaient encore contrôlés par à peu près une seule idéologie, l'idéologie des beaux-arts. Mais après 68, il y a eu d'autres idéologies qui sont entrées s'installer dans les écoles d'art. Les idéologies qui ont commencé par contester l'institution. Une fois embauchés puis salariés par l'institution, les contestataires ont pris la pause, ils l'ont gardé depuis. Ce qui fait qu'il y a il y a une situation de conflit insoluble, fondée sur des portes fermées, des ponts coupés, personne qui peut reculer. Et puis l'institution vit puis continue, pas toujours une clientèle. L'institution ne propose pas un enseignement. L'institution peut proposer un choix de marchandises idéologiques, accompagné de certaines pratiques qui découlent plus ou moins des idéologies présentées. C'est présenté sur tablette, comme dans un magasin. C'est aux étudiants de se démerder là-dedans, de ramasser ce qu'ils peuvent.
Autrement dit, présentement aujourd'hui, on serait au moment.
Il n'y a pas d'enseignement. Les étudiants qui se trouvent dans une situation d'apprentissage peuvent toujours apprendre quelque chose là-dedans. Ça veut pas, il est clair pour moi depuis longtemps que l'apprentissage peut exister là où il y a zéro enseignement. Enseigner et apprendre, c'est deux activités complètement différentes. L'apprentissage ne découle pas nécessairement des intentions d'enseignement. Ça même dans des circonstances où personne ne prétend enseigner, comme au coin de la rue, on apprend quand même.
OK. Et ce que tu veux dire, c'est que les institutions, carrément, se sont sclérosées. Se sont autonomées. C'est-à-dire quand il y avait remplacement, on avait quelque chose qui ressemblait à soi-même. Et finalement, ça tourne en rond. Et présentement, il faudrait presque faire. Pas le balayage complet, les remises en question. Je ne sais pas. Au niveau de l'enseignement, qu'est-ce qu'il faudrait que soit fait, là?
Alors, ça, des propositions, de réjuvénation, de réhabilitation de l'école, il y en a tant qu'on veut, mais ce sont des propositions tellement douces, tellement respectueuses des institutions, ça me fait de chance. Quoi que ce soit.
Elles sont pareilles, c'est ce qu'elles dénoncent, c'est ce qu'elles changent.
C'est pas les Britanniques qui font les enfants.
Pas encore. Mais ça, on parle de carrière de professeur.
Oui, mais moi je parle de ce que j'ai pu observer parce que j'étais professeur. Si je n'avais pas été professeur, j'avais été dans mon atelier à faire un autre job, chauffeur d'autobus. Mm-hmm. J'aurais pas observer ça, probablement. J'aurais été préoccupé par des histoires de chauffeur d'autobus, par mes histoires à moi dans mon atelier bien personnel.
Et là, c'est une question là, que je pose là-dessus. Est-ce que pour toi, ben, c'est-à-dire, financièrement, en s'entendant au départ, il te faut un autre job, tu ne veux pas être juste artiste. Est-ce que c'est par obligation ou par choix?
Oh, c'est un cercle vicieux, ça.
Pas nécessairement vicieux. Tu es simplement artiste ou tu es et professeur et artiste, il faut faire l'autobus et artiste. Et,
je pense bien que n'importe qui a un peu de jarnigouane, s'il consacre énormément de temps et de pensée puis d'énergie à une carrière, il va réussir dedans. Artiste ou autre chose. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui, par hasard, est intéressé ou embarqué dans d'autres choses, comme l'enseignement, n'a pas tous ses esprits pour s'occuper de sa carrière.
Autrement dit, ça veut dire que la carrière de professeur, pour toi, c'est une activité importante. Tu ne seras pas capable de quitter le même matin.
Je pourrais certainement quitter demain matin, oui.
Pour retourner en atelier, simplement.
Mais quand ça fait plusieurs années qu'on fait un métier, si on lâche, on traîne quand même dans notre tête un bout de temps, ce métier-là, une période de réhabilitation. Tu sais, quand on retourne à la vie civile...
Après la liberté conditionnelle, oui. Hein?
Imagine que les gars qui ont été longtemps dans l'armée ou dans l'artillerie, s'ils sortent de là, s'ils débarquent à un moment donné, il y a quelques années, là, ou quelque part, je ne sais pas. Il faut qu'ils cherchent un peu à se retrouver.
Mais tu as quand même deux carrières un peu similaires, mais celle de professeur et celle d'artiste. Tu mènes simultanément.
Bon, l'enseignement, c'est par hasard, je suis tombé là-dedans.
Maintenant, ça ne semble plus être par hasard. Ça ne semble plus être...
Que je sois resté si longtemps, ça c'est pas un hasard. C'est parce que... je le sais maintenant, mais... je pense que pendant les premières années que j'étais dans les écoles, je ne savais pas trop pourquoi je restais là. Je n'ai pas obligé financièrement. J'ai plein d'autres gens. Un autre chose à faire. C'est que la position d'observateur, ça me convenait.
Et observateur, c'est observer autant comment l'école va, comment les étudiants vont, c'est ça que tu observes.
Il y a aussi que que l'école est devenue une composante d'un système d'art beaucoup plus vaste que l'école. L'art est devenu big business depuis une quinzaine d'années. C'est du big business. C'est du méga buck. Hein? Dans l'ensemble. Et puis, il y a de plus en plus de liens qui se sont établis entre les écoles, les musées, les galeries, les collectionneurs, la critique de l'art, l'histoire de l'art, tout, puis les quelques artistes qui traînent dans ça, là, à divers titres, ça constitue un vaste milieu diversifié où il y a plusieurs professions et métiers impliqués. Où il y a plusieurs niveaux de professionnalisme, et puis de prospérité, et puis de richesse, puis de pauvreté, tout ce que tu voudras. C'est devenu une société, à l'intérieur de la société. Il existe un milieu artistique qui englobe un paquet d'institutions qui étaient passablement plus autonomes, mettons, dans une trentaine d'années.
Comment dit, tout ce qu'il y avait d'intérêt qui pouvait se rattacher à l'art, présentement, tous ces intérêts-là sont reliés dans un système d'articulation difficile peut-être à lire, pas à lire, mais à percevoir, mais réel.
Pas tellement difficile parce que on peut voir de plus en plus que ceux qui exposent des œuvres ont presque tous passé par les écoles d'art. Ceux dont la critique parle sont les mêmes qui ont passé par les écoles d'art. Généralement, par les mêmes écoles d'art que celles qu'ont fréquenté les critiques d'art ou les historiens d'art, ceux qui écrivent sur leurs anciens confrères de classe à l'école d'art. Que les gens qui travaillent dans les musées sortent aussi des écoles d'art. Il y a une infinité de liens visibles. Si on retrace l'histoire des personnes impliquées dans le réseau.
Comment on dit, c'est une petite...
C'est un réseau fermé où tous ceux qui sont impliqués à divers titres, peu importe leur métier ou profession actuellement, ont passé à travers la même machine.
Dirais-tu que ce réseau-là, finalement, exclut ceux qui ne sont pas passés dans la machine?
De plus en plus, me semble-t-il.
C'est une mafia qui garde tout à l'intérieur.
Il me semble.
Je ne demande pas si tu es d'accord avec ça, parce que tu vas me dire que toi, tu observes ce qui se passe. Mais en tant qu'artiste, comment tu réagis face à tout ça? Comme producteur de voilà, ce qui était antérieur à cette université.
Mes jeunes années où je me suis formé, là, c'était avant la constitution de ce vaste milieu d'art, réseau tout imbriqué, réseau complexe, puis multiforme, puis varié, mais réseau fermé quand même. Plus en plus. Un réseau qui est capable d'exclure.
Mais tu parles de tes jeunes années.
Non, dans mes jeunes années, le réseau n'était pas constitué. C'était pas aussi fermé. Il n'y avait pas autant de liens serrés entre les écoles d'art, les galeries, les musées. Les collectionneurs, que de plus en plus de femmes de collectionneurs ils vont suivre des cours d'art. Finalement, c'est le même monde que tu rencontres. La population impliquée dans le milieu de l'art est en train d'augmenter. Il y a de plus en plus de gens impliqués là-dedans. Mais c'est un milieu.
Est-ce que c'est utile, ça, une situation comme ça? Est-ce
S'il y a des gens ou des institutions en mesure d'exploiter un lieu constitué de cette façon-là, il est clair qu'un tel réseau est facile à contrôler.
S'il y en a qui le contrôlent,
Essentiellement.
Il essaie tout tantôt, c'est de comment tu t'intègres, pas t'intègres, mais comment tu réagis comme artiste dans le réseau que tu viens de décrire. Parce qu'il y a une chose qu'il faut dire, ça va quand même de rétrospective, soit c'est l'an prochain, je pense, ou dans 12 ans ou 15 ans de mois.
Rétrospective qu'on fait malgré moi.
Non, mais que tu acceptes, auquel tu as participé, c'est-à-dire, je ne veux pas que tu acceptes qu'elle soit faite.
Je ne peux pas refuser, on peut le faire sans moi. Je ne vais pas accepter ou refuser.
Oui, mais quand même, présentement, tu y participes.
Le musée d'art contemporain, qui fait partie d'institutions muséologiques, considère qu'un gars rendu à mon âge doit être montré comme un vétéran de la culture québécoise.
Mm-hmm.
Parce qu'on est plus tellement nombreux de mon âge. Mm-hmm. Survivants actifs.
Ben, il y en a encore.
Mais l'inventaire est vite fait. Bon, l'institution a besoin de faire ce genre de choses. Moi, je n'ai pas besoin que le musée le fasse.
Mais
en tant qu'artiste, c'est bien certain que je n'ai jamais dépensé une seconde de mon énergie d'artiste en vue d'une rétrospective. Alors qu'un musée comme le contemporain qui se trouve dans le contexte socio-culturel, politique québécois, est obligé de faire ce genre de choses. Même si c'est un peu un braque à la prendre.
Parce que c'est lui qui a
que faire des rétrospectives à des artistes qui viennent juste d'arriver à maturité. Des artistes dont l'apprentissage est à peine terminé. Mm-hmm. C'est plan professionnel. Là. Bon, à 50 ans, on est mûr comme citoyen, mais comme artiste, pas tant que ça.
Molinari me disait que lui, la rétrospective avait été l'occasion pour lui de regarder ce qu'il avait fait.
Oh, c'est toujours ça. Ouais. Si l'occasion se présente, on regarde. On ne va pas refuser de regarder. Moi aussi, je vais regarder. Si jamais elle a lieu, cette rétrospective, c'est quand même dans l'avenir, ça.
Mm-hmm.
Pendant que je vais regarder. Quand il y a eu la rétrospective Molly, ben, je vais aller regarder ça. Je m'en rappelle un tas de choses. Quand il y a eu la rétrospective gauche, je suis allé regarder ça, c'est pas la télé aussi. Le petit pays. François Sullivan. T'as entendu? La curiosité personnelle va jouer.
Mm-hmm. Mais toi, ta rétrospective, t'es en train de se
faire?
Comment te vois-tu
en rétrospective? Mais cette satisfaction nostalgique qu'un artiste peut tirer à un moment donné à regarder sur deux, trois salles quelque part réunies en même temps une trentaine d'années de son ouvrage, c'est quand même pas une raison sociale suffisante pour faire une rétrospective à un gars. Il y a un maudit paquet de gens que ça fait 30 ans, 40 ans qui peignent, qui sculptent et qui font toutes sortes de maudites choses.
Mm-hmm.
Puis, ils n'auront pas de rétrospective.
Et toi, t'en auras
une. Pourquoi pas une rétrospective, je sais pas, d'un des fondateurs des industries Bombardier. Hein? N'importe quel des fondateurs des industries Bombardier a certainement eu une vie active et intéressante. Il a fait des choses pas mal importantes.
Oui, mais on est dans le secteur de l'art.
Ça, je suggère
pas.
Pas
à nous de
non,
faire.
Non, je suggère pas que le musée d'art contemporain entreprenne un dossier sur
la famille Bombardier.
Sur la famille Bombardier. Mais du point de vue poids social dans le contexte québécois, Bombardier est certainement un sujet intéressant pour n'importe quel ministère des Affaires culturelles. Je pensais que ce soit sa branche artistique qui fasse ça. Le ministère des Affaires culturelles a d'autres branches qui peuvent aller dans le secteur industriel, économique, financier.
Dirais-tu que ce serait plus important que les prospectives en art?
Ben, je sais pas comment c'est supposé, ça, là, chez les fonctionnaires de Québec.
Non, mais toi...
Ces questions-là. Les arts visuels sont considérés plus visibles que les autres arts. Les arts administratifs, par exemple, sont considérés plus visibles, plus bruyants, plus remarquables, plus colorés. La peinture, c'est plus coloré qu'un contrat.
Eh bien, tu disais que t'es quand même dans le secteur artistique. Ce que tu es en train de dire, c'est tout simplement que...
Je suis en train de dire que je suis loin d'être convaincu que les artistes dans une région donnée du monde soient toujours un facteur culturel important. Dans l'histoire québécoise des 30 dernières années, c'est peut-être pas les arts qui ont été un facteur culturel important, c'est peut-être même un facteur culturel bien mineur, qui ne mérite pas tellement d'attention. Il y a peut-être d'autres activités non artistiques qui ont eu un poids culturel.
Sur les autres secteurs, là, continue.
C'est que la glorification des artistes par un État me semble être une solution de facilité.
Parce que là je vais te rejoindre, c'est-à-dire, je vais rejoindre presque le début de la discussion. C'était justement ce qu'on disait en 68. Les arts, c'est quoi? C'est un détail. Et on voulait ce qu'on appelait l'éclatement, te raconter qu'au niveau de l'enseignement, ça a amené presque à une sclérose, même des progressistes, n'importe qui, ou des conservateurs. Tous ces individus-là à se fixer dans un rôle par rapport au débat. Mais 68, c'est justement ça qu'on disait. C'est quoi les arts? C'est rien. C'est pas une valeur majeure. Mais si toi-même qui fais une activité d'artiste, dis, bof, on peut oublier. À ce moment-là, qui va défendre les arts? Peut-être qu'ils n'ont pas été défendus. Et à ce moment-là, s'ils n'ont pas été défendus, l'activité d'artiste va demeurer, je voudrais dire, un geste individuel, une espèce de ou de masturbation, ou bien de d'autosatisfaction qui se fait dans son salon, les week-ends. Autre moment donné, ou le matin, ou je sais pas, un moment du jour. Parce que comment te définis-tu?
Non, je parle du point de vue d'un gars qui ne sent absolument pas besoin de justifier ce qu'il fait pour son propre plaisir, de toute façon. Que des gens trouvent ça beau, intéressant, ou plate, ou n'importe quoi, ce que j'ai envie de faire, je vais le faire.
Mais est-ce que toi, tu trouves beau, intéressant? Ce que toi, tu fais? Important.
Or, je ne suis pas du tout dans une position pour évaluer l'importance.
Non, mais pourquoi tu le
L'importance
fais?
relative à d'autres types d'activités. Je ne suis pas le ministre des Affaires culturelles.
Oh, mais attends, moi,
Qui a devant lui, qui a devant lui des dossiers
mais attends.
panoramiques. C'est une grande variété d'activités dans bien des domaines, pas tous artistiques. C'est lui qui choisit de mettre le spotlight sur les arts visuels.
Avec demande des arts visuels, souvent.
Bon, entendu que les artistes comme les chambres de commerce ont un lobby.
Mais c'est parce que à ce moment-là, toi-même, considères-tu que ce que tu as fait mérite d'être vu par d'autres que toi? D'être étudié par d'autres que toi?
Je peux pas évaluer mes bébelles avec l'œil des autres. Alors moi, je pense que j'ai fait quelque chose d'amusant. Je le montre. Je peux pas prévoir si d'autres vont trouver ça aussi amusant que moi je l'ai trouvé. Ou s'ils vont trouver ça plat.
Mais jusqu'ici, ça n'a pas si mal été. C'est-à-dire que t'as quand même une certaine notoriété. T'as même ramassé un coup de bordure en passant. Ce qui prouve que justice, c'est quand même quelqu'un qui est dans le milieu.
Bon,
Puis,
n'importe qui persiste, mettons, 30 ans, vont finir par être remarqué. Et puis tous ceux qui persistent pas, ils sont pas remarqués. Ceux qui sont pas présents, ils sont pas remarqués, ça.
Ouais, mais lui, je connais beaucoup d'individus qui sont là depuis 30 ans qui ne sont pas remarqués aussi.
Ils n'ont pas persisté beaucoup. Ils n'ont pas montré. Pour montrer ce qu'il faisait.
Combien d'années que Fioré pitonne autour au milieu?
Je ne sais pas pourquoi il ne montre pas ses affaires si on les montrait. C'est pas si compliqué que ça.
Fioré, c'est pas marquant au milieu. Il est là depuis longtemps aussi.
Dans les années 40, Suzanne Duquet. Dans les années 40 puis au début des années 50, il était quasiment interdit d'être artiste dans la belle province.
Regarde Suzanne Duquet.
Et puis, quand les automatistes voulaient montrer qu'il y avait toute la maudite province contre eux autres, quand ils voulaient montrer quelque chose, ils louaient un entrepôt ou bien une épicerie sans locataire temporairement, ils faisaient leur position là-dedans, ils ne demandaient pas la permission à personne. Ils faisaient.
Ils le faisaient.
Oui, puis ils n'allaient pas se traîner à genoux dans la galerie non plus pour demander des expositions.
Oui, mais tu vois que déjà,
C'était garanti qu'ils n'auraient pas d'exposition. Ils louaient une épicerie désaffectée, puis ça y est, ils faisaient l'exposition.
J'ai déjà fait des expositions dans un bureau de poste désaffecté, moi aussi. Et ce que je veux dire, c'est que.
Mais dis que le gouvernement ne veut pas te montrer que tu es persécuté par la société, puis les galeries, puis le ministre des Affaires culturelles, puis les autres artistes. C'est braillé, ça, tout simplement. C'est tout simplement un manque d'ingéniosité, c'est tout. Les automatistes n'étaient pas des super businessmen, c'est bien connu. Ils trouvaient moyen d'exposer. Hein? Bon. Minimum d'ingéniosité. Les automatistes, puis bon.
Même Rousseau, il réussit à se montrer. Il n'était pas un mauvais businessman, par exemple. Non, arrêtons un peu là-dessus. Et ces 14 années-là, comment ils sont passés pour toi, 68-82, comme artiste? Ici, on a surtout parlé de ton rôle. Je vais essayer d'introduire la notion de toi-même comme artiste. C'est toujours au niveau de l'observation. Mais comment toi vois-tu ces 14 ans-là? Est-ce que toi, quelque chose a changé ou bien ça a continué comme c'était? Comment ça s'est modifié? Parce que je me souviens, madame, que c'était l'interview en 69 où tu parlais l'importance du système même, ou des outils qui servaient à la production, etc., qui était une chose d'importance pour toi. Là, le moment où tu produis la colonne, des taux musées, des choses comme ça. Est-ce que c'est encore ça tes intérêts? Parce que tes revenus, parce qu'en 68, tu étais surtout sculpteur, tes revenus peignent du chien-là, par exemple. Pourquoi tout ça? J'aimerais une réponse qui soit pas réductive.
À ce moment-là, je me mets à parler de moi-même. Là, puis ce sont des
qui m'intéresse.
À ce moment-là, ce sont des renseignements qui concernent beaucoup moins l'évolution.
La première question, si il y a eu changement ou transformation dans la démarche de quelqu'un, première question. J'aimerais que tu répondes ça. Après ça, on peut. Le milieu, on tourne autour un peu. Mais toi, comment ça s'est été ces années-là?
J'ai toujours été un chasseur solitaire, un lone wolf. Même physiquement bien présent dans un milieu, ça ne veut pas dire que je me nourris exclusivement de ce milieu-là. Quand je ne suis pas chasse ailleurs.
Où tu te nourris alors?
N'importe où ma curiosité m'entraîne. Je considère absolument pas que la production artistique est une matière première. L'ensemble d'activités artistiques produit des artefacts, c'est-à-dire des travaux déjà synthétiques, déjà élaborés, qui ne peuvent pas constituer une source unique de vitamines, de renseignements, de matières premières, d'idées fondamentales ou quoi que ce soit. Donc j'ai été passablement méfiant. Par tempérament probablement, pas par idéologie. J'ai probablement été tout bien méfiant de la proposition artistique globale. La proposition qui voudrait substituer au monde celui beaucoup plus restreint de l'œuvre d'art. Mm-hmm. Pour moi, l'œuvre d'art est toujours un fragment de l'univers. Il ne peut pas se substituer à l'univers. Alors, je m'alimente n'importe où, ma curiosité m'entraîne. Mm-hmm. Je ne suis jamais spécialisé dans les arts.
Mm-hmm. Mais disons que moi, je m'alimenterais à ton œuvre d'art. Qu'est-ce que j'y trouve? Tu me dis, c'est à moi de répondre à ça. Toi-même, tu t'alimentes ta propre œuvre d'art. Qu'est-ce que tu y trouves? Tu t'alimentes-tu de ton œuvre d'art?
Oui.
Comment?
Pour moi, mon activité, dans mon studio, là, quand je fais quelque chose, c'est une œuvre critique. C'est un travail de recherche épistémologique. J'ai pas de. J'ai pas de système de promotion d'un style ou d'une manière. Forcément, un gars qui travaille. Pas mal. Ah, certains maniéristes.
Je dis pas mal, je dis beaucoup.
La signature, là, c'est que moi, ça soit complètement artificiel comme œuvre. Comme manufacturé à froid. Il y a toujours certaines manières de l'auteur qui se retrouve. Pour celui qui fait le tableau ou qui travaille une sculpture, ça peut être des choses.
C'est quoi pour toi?
On peut être bien des choses.
quoi?
Ben, en ce qui me concerne, travailler sur un tableau, monter une pièce qui va plus tard peut-être s'appeler sculpture, j'ai pas d'étiquette au départ. L'étiquette, c'est après. C'est une enquête sur la connaissance. La mienne, sûrement, par extension, possiblement, la connaissance sur un plan plus général, possiblement. S'il s'avérait beaucoup plus tard que dans mon œuvre, il y a une intelligence de la connaissance qui apparaît dans l'œuvre. C'est une curiosité d'ordre philosophique, essentiellement. Ce genre de curiosité-là peut être vécu de mille façons. Certains qu'il y a des gars qui ont les mêmes curiosités, mais qui font leurs expériences dans le monde de finance, ou de littérature,
Après 30 ans de partir.
Ou de l'aventure guerrière. Il y a même certains philosophes qui se préoccupent de ces questions-là.
Mais après 30 ans de pratique artistique, penses-tu que toi-même, tu as vraiment réussi à te satisfaire par ta recherche dans le milieu de l'art? Dans le champ de l'art, dans le milieu, dans le champ de l'art. À quoi ton œuvre.
Oh, ma satisfaction. Ma satisfaction arrive quand je crois là, que je suis en train de comprendre un petit peu plus le processus de connaissance, appliquer connaissance. On peut critiquer ça longtemps, cette notion-là. Mais si je pense que je suis en train de décortiquer certains fonctionnements du processus de connaissance, ça me fait plaisir. Et puis si je patauge et puis que je me rends pas compte que je suis en train de circuler dans le champ de la connaissance, ça me plaît pas tellement, j'arrête. Je cherche à faire autre chose. Bon, l'étiquette d'art, puis d'œuvre d'art, pour moi, c'est juste une étiquette. Ça vient après. Ça vient après. Je fais bien des choses. Il y a un faible pourcentage des résultats de mon activité que je montre, que j'expose dans le milieu artistique parce que je pense que ça peut être reçu dans ce contexte-là. Tout ce que je fais est pas recevable.
Je serai d'ailleurs.
Pas beaucoup cherché ailleurs. Pas beaucoup cherché ailleurs.
Parce que tu donnes un peu l'image, quelques fois qu'on se rencontre, que tu te défends, t'excuses presque d'être un artiste.
J'ai peu de respect pour la notion d'artiste. Presque pas. Presque rien.
Raison.
En termes de.
À cause que c'est un système trop protégé, trop fermé,
pour moi, c'est une mystification.
Mystification ou mystification.
Une mystification.
Mystification. Un écran de fumée.
Une mystification accompagnée de mythes. J'ai pas l'intention d'art. Je l'ai pas.
Tu par accord.
Il y a certains objets que je fabrique dont je peux bien constater après les avoir faits que je peux les montrer dans le milieu qui s'appelle artistique, qui sont recevables dans ce milieu-là. Si je veux les montrer dans ce milieu-là, point d'autre. Recevable ailleurs. Donc, ça, c'est... Bon, quand on veut montrer ses affaires, on les montre. Mais il n'est pas nécessaire que... Que je sois moi-même victime de mystification.
Mais comment fais-tu pour juger?
Je préfère être un exploiteur à être une victime.
Mais comment tu fais pour décider qu'un objet va dans ce champ de l'art? Comment dire, préfères-tu à l'histoire de l'art? À quoi tu préfères? Pour dire que celui-là va aller dans le champ de l'art, celui-là n'ira peut-être nulle part, parce que dans le fond, tu ne montres rien d'autre à l'extérieur de ce que tu produis, que tu présentes comme œuvre d'art. J'ai exclu la scène, hein?
La notion de l'art, c'est...
L'histoire de l'art.
La notion d'art, c'est lentement construite. Dans le cas de notre accident, là, depuis la fin du 14e, début du 15e siècle, c'était pénible au début. Uh-huh. Certains là sont venus avoir des prétentions, puis ils ont réussi à se faire appeler artiste. Ça, c'est quand même plusieurs siècles d'œuvres. Auquel on a collé l'étiquette art. Bon, n'importe qui était un peu familier avec ces objets-là, avec leur histoire, avec l'histoire de leur statut, de leur position dans les sociétés où ils sont apparus, est capable d'examiner un objet de fabrication contemporaine et puis de décider s'il est recevable dans le cadre de cette tradition-là, ou s'il n'est pas.
Et c'est comme ça que toi tu procèdes.
C'est comme ça que je peux essayer de temps en temps de présenter certaines de mes fabrications dans le cadre du milieu artistique, sachant fort bien que c'est recevable. Si j'étais totalement ignorant de l'histoire, je ne pourrais pas le faire. Où j'aurais pas d'étiquette pour certains de mes travaux, des étiquettes différentes qui me sont faites. Je montre pas tout ce que je fais. Ce que j'ai envie de montrer, il se trouve que c'est plutôt recevable dans le milieu artistique que dans un autre milieu. Pas que j'ai une préférence préjugée pour le milieu artistique.
Mais quelles sont les conditions qui te...
Pur opportunisme.
Non, mais aussi, quelles sont les conditions qui te font débuter un travail qui pourra ou non déboucher dans le milieu de l'art?
Or, j'ai jamais l'intention de faire quelque chose qui va être montré dans le milieu de l'art.
Non, mais quelles sont les conditions qui te font débuter une chose, qu'elle finisse ou non dans le milieu de l'art?
Ah, d'avance, je ne sais absolument pas si ce que je vais faire va être présentable dans l'université.
Non, mais comment tu commences une chose?
Je ne sais pas. Je suis ma curiosité. Mm-hmm. Peu importe où ça m'entraîne. Ça m'entraîne à faire des choses à faire toutes des choses irrecevables dans l'université. Je n'aurais rien à montrer dans ce milieu-là. Mm-hmm. Là, je trouve une autre place.
Mais jusqu'ici, est-ce que tu as montré quelque chose à l'extérieur du milieu artistique?
Le mieux rester bien discret là-dessus.
Mais sans donner d'exemple, est-ce que oui, ça s'est produit?
Sûrement. Je suis pas condamné à être un artiste. Mm-hmm.
C'est pluralisme un peu trop, c'est ça.
Non, c'est pas le pluralisme parce que j'explore le champ de mes curiosités. Et puis cette exploration-là entraîne la fabrication d'objets, de temps à autre, quand les objets sont nécessaires. Pour qu'il y ait exploration. Les objets ne sont pas toujours nécessaires. Parmi ces objets-là, qui m'ont servi, que j'ai épuisé, des outils usés au moment où je les lâche, parmi ces objets-là, il y en a qui comportent un certain intérêt pour le milieu artistique. C'est celui-là que je montre là. Tout ce que je fabrique n'est pas intéressant pour le milieu artistique. J'ai assez de connaissances et de jugement pour faire mon temps.
Mais s'il y a des objets qui ont un intérêt pour toi-même, indépendamment de qui te sont un enseignement, qui t'apprennent quelque chose, oui, sans doute, mais qui sont marquants pour toi.
Attends un peu.
Dans ce que tu produis.
Attends un peu. Parmi, dans ce que je fabrique, là.
Oui.
Quand je les lance, je les épuise.
C'est fini.
Je les épuise.
Que ce soit un tableau, une sculpture ou autre chose qu'on ne connaît pas.
Non. De temps en temps, par hasard, je revois une bébelle ancienne un peu, là. Ancienne en termes d'une vie d'âme. C'est pas dans le sens historique. Et puis il peut arriver que je constate que je n'avais pas totalement vidé quelque chose que j'avais fait moi-même. Avant de sortir de l'atelier. Ça a été bien rare, c'est pas lui. Quand ça sort de l'atelier, c'est évité, moi j'ai fini.
Donc tout se fait. Donc...
J'ai sorti tout le jus que je pouvais en sortir, puis ça ne peut plus me servir à moi.
Autrement dit, les objets que tu sors, c'est une expérimentation qui est menée.
Des résidus d'expérience.
C'est des résidus. Mais est-ce qu'un objet peut être une accumulation aussi d'expérience, au-delà de simplement d'un résidu? Quand tu dis un tableau ou une sculpture est une accumulation.
Oh, il y a des traces plus ou moins claires de ce qui était l'enquête. C'est pas toujours également clair dans tous les ouvrages. Mais je peux pas, moi, prendre la responsabilité et l'intelligence de ceux qui vont regarder mes affaires. Ou ceux qui regardent parviennent à retracer par quel cheminement c'est devenu un objet comme celui-là. Ou ils ne le retrouvent pas. Ou l'objet peut avoir une matérialisation telle que c'est immédiatement jouissant. Sans histoire, sans être obligé de retracer tout le processus générateur de l'ouvrage. Ça peut être immédiatement jouissant. Je pense, un bon steak. Pour rien connaître la vie du bœuf, hein. Puis je pense, j'imagine pas que mes efforts d'intelligence requièrent des efforts d'intelligence chez les autres. Je ne veux pas imposer de charge à personne. Je ne veux pas dire aux autres comment ils doivent percevoir le monde. Mes bébés faisant partie du monde, comme les autres en vrai. Je ne veux pas essayer de contrôler leur perception, leur jouissance. Ça les regarde. S'ils aiment ça assez, ils l'achètent.
Puis à ce moment-là, c'est eux qui l'assument. L'objet qu'ils ont acheté.
Ah ben oui. Si on a un certain agrément à regarder le machin pendant une couple d'années, tant mieux pour les autres. Mm-hmm. Si au bout de quelques années, il vide l'affaire et ça devient complètement plat, puis ennuyeux. Ils ont caché le filet avec un autre qui va trouver du plaisir dedans.
Il y a quand même...
Mais c'est pas absolu, c'est pas absolu la valeur des choses. La valeur, c'est dans l'œil, c'est dans le récepteur, la valeur. Pas dans l'objet.
Il y a quand même une unité dans tout ce que tu peux.
Bon, c'est plus ou moins cohérent selon, la cohérence de mon enquête. Qui est allée sur plusieurs années. Il y a bien des ruelles et des détours.
Parce que finalement, tu réduis, pas tu réduis, mais tu ramènes toute ta recherche artistique, comme tu disais tout à l'heure, un outil pour toi de connaissance.
Ah oui, sûr.
C'est ça d'abord sûrement, et avant tout.
Sûrement. C'est un instrument de recherche.
Puis parmi la recherche d'autres. Individuelle.
Parmi d'autres.
Parmi d'autres, mais la recherche parmi toujours d'autres. Pour j'ai des fins individuelles.
J'ai d'autres instruments, ça, un point que ça. Je peux réduire à ça. J'évalue pas l'univers avec des critères artistiques. On n'est pas de critères artistiques.
T'as pas de critères.
Ah non, pas. Bon. Mes critères découlent de mon système d'évaluation de l'utilité de mon travail en termes d'accroissement d'intelligence. C'est là qui se trouvent mes critères. Il y a des critères philosophiques que je valide mes heures, tu vois, des critères esthétiques, d'accord. Pas que je sois ignorant des critères artistiques énoncés par bien des écoles.
Et comme professeur, c'est comme ça que tu réagis devant les étudiants.
Ouais.
Avec le même grille. Ok, ça va.
Ok, le compteur roule.
Vous profitez de cet arrêt.
On descend maintenant. Ils sont trop minces, hein? Je vous dis tout.
La chose, sortant un peu de ce qu'on vient de dire, comment vois-tu ce qui s'est passé ici au Québec en 68-82? Pas l'enseignement, pas toi, mais le milieu même, le milieu de l'art dans lequel tu vis, marginalement ou intégré, comme tu le vois.
L'art est devenu un... donné un produit utilisable à toute fin. On peut en faire un matériel de commerce, on peut en faire un matériel de démagogie politique ou culturelle. On peut en faire une activité thérapeutique. Ça marche. Dans bien des cas, c'est vrai. Ça dépend de bien du monde. Ça peut servir à n'importe quoi.
Est-ce que ça, c'est positif ou négatif, ce que tu viens de dire? Par rapport à... Est-ce que l'art, pour l'art, c'est positif ou négatif? Qu'est-ce que ça soit devenu ça?
Notre société semble capable d'utiliser ces années-ci les activités et les travaux, les résultats des activités de ceux qui s'appellent baptistes. Et puis, il semble que l'indétermination du statut d'artiste soit extrêmement utile à beaucoup de gens. Le chapeau peut être adopté par un preneur ou qui. Ça peut servir à toutes sortes de choses, de porter ce chapeau-là.
Mm-hmm. Je suis tout à fait d'accord avec ça, l'indétermination-là.
Oui, sûrement. Ben, deux dangers qui menacent l'humanité, l'ordre et le désordre. Il y a un yo-yo là-dedans. Si notre société est envahie de produits des plus maladroits dans notre société, ces maladroits-là ont une voix importante dans l'évolution de la société.
Sous le chapeau de l'art.
Sous le chapeau de l'art. Si les institutions culturelles, politiques, économiques même un peu, trouvent utile de favoriser l'accroissement des activités maladroites, ça peut à la longue affaiblir la société. Plutôt que de définir une culture. Donc, avoir l'effet contraire de celui qui est cherché. Il y a beaucoup de ceux qui s'appellent artistes, depuis un certain nombre d'années, qui se croient en train de faire une culture québécoise, canadienne pour d'autres. C'est pas certain que les tableaux, les sculptures, les dessins, que les poèmes, les compositions musicales aient été des facteurs culturels. Il est également probable que c'était des conséquences d'une culture beaucoup plus profonde qui préexistait à l'élaboration de ces œuvres-là. Est-ce qu'un tableau est un facteur ou une conséquence? On va en parler longtemps.
Mais entre 68 et 82, est-ce qu'il y a dans le monde de l'art des produits dits artistiques, plastiques qu'on entend, qui selon toi ont été des marquants, des déterminants pour la culture québécoise, canadienne, internationale, faite ici.
Le système artistique là, qui constitue un milieu actuellement, s'est formé ailleurs. C'est formé, le système actuel s'est surtout fait aux États-Unis. Où il y avait une société qui se croyait extrêmement prospère, évoluée, moderne, dynamique, et puis qui s'imaginait être sans culture. Les éléments de la société américaine qui se croyaient évoluer ont trouvé dans les manifestations artistiques européennes le symbole de la culture. Il n'y en a pas de culture sans art. Il nous faut des arts. Là, ils ont été assez nombreux aux États-Unis. Il nous faut de l'art pour avoir une culture. Et ils ont renversé la logique, en tout cas. Pas 20 fois que ça se produit. Il y aurait même fait la même chose avec les Grecs. Ils ont adopté puis adapté des activités, des pratiques, des fabrications de tableaux, de sculptures, de dessins, de poèmes. Ils ont adapté des produits typiquement européens, comme le tableau, la sculpture. Ce sont des choses européennes. Et puis les Américains croyaient que c'était ça la culture européenne. Et si tu regardais les tableaux, si tu visitais les musées en Europe, que tu découvrais la culture européenne dans ces musées. Puis ils croyaient qu'eux, s'ils se mettaient à faire des choses semblables, meilleures, plus grandes, plus grosses, plus pesantes, qu'ils auraient une culture américaine en se fabriquant des œuvres d'art made in USA. Je pense qu'ils s'en laissent passer la même chose ici.
À partir de bord du bois?
30 ans plus tard. Avec un décalage.
Venus s'est passé à 40.
Ben, on est quand même lié aux névroses américaines ici. Avec un peu de décalage, mais on est lié. Je pense à tous ces Canadiens depuis le 19e siècle qui vont pas faire de leur culture en Europe. Quelqu'un voulait être un artiste ici, il n'y avait pas de moyen autre de devenir artiste que d'aller étudier la peinture, la sculpture, le dessin en Europe. Tout ça pour acheter une culture, pour découvrir comment fabriquer une culture canadienne, québécoise, n'importe quoi. Il s'agissait de fabriquer une culture. Le raisonnement, de mon point de vue, était maladroit, fautif. C'était un raisonnement inculte. À mon avis, les tableaux, les sculptures, les dessins sont des conséquences, ne sont pas des facteurs de culture. Ce sont des témoins, des manifestations d'une culture qui existait avant, qui est là, plus ou moins visible. Les tableaux peuvent manifester un certain degré de culture, ne peuvent pas la créer. Ils peuvent peut-être contribuer un petit peu à l'évolution, mais je pense qu'une culture est bien plus profonde que certaines catégories d'artefacts glorifiés indûment. À notre époque, un tableau, une sculpture, dans le contexte des milliers d'autres types d'artefacts, ça a peu d'importance objective. Dans les sociétés, aux époques où les tableaux et les sculptures et les dessins représentaient les plus hauts niveaux de l'intelligence d'une culture, ces objets-là avaient une très grande importance objective.
De ces sociétés-là, tu parles de sociétés tribales,
des... Non seulement la société européenne, jusqu'à la révolution industrielle, où il y a eu une prolifération d'artefacts, qui est extrêmement intéressant. Comme témoin de manifestation d'une culture en pleine évolution dynamique. Mais les artistes s'étant accrochés aux aristocraties intellectuelles européennes, sur les circonstances politico-religieuses de l'histoire européenne, voyait d'un mauvais œil la compétition de tous ces nouveaux artefacts qui arrivaient massivement par millions du marché. l'entreprise d'études rétrograde, conservatrice, combat d'arrière-garde, qui continue nos jours. Tous les systèmes idéologiques de défense de l'art actuel sont des idéologies complètement rétrogrades. Pire, mais c'est mort depuis longtemps. C'est le fait d'une classe accrochée à ses privilèges, à ses titres. Pas à la fortune, parce que c'est pas si payant que ça, finalement. Mais, tu sais, les aristocrates déchus, là, qui ont plus d'argent, mais qui ont toujours des costumes d'un boulamite.
Autrement dit, ce que tu dis, c'est que présentement, l'art est une survalorisé dans notre société.
Bon, oui.
Trop, bien sûr. Et toi, ce que tu fais finalement là-dedans, c'est que tu profiterais de cette survalorisation presque pour en présentant des tableaux ou ça t'aide à vivre. Tu es un parasite finalement d'une survalorisation. Quand je parle du fait de la mise en marché de ton œuvre,
je parle pas des conditions de production.
Bon, je suis pas tellement successful comme exploiteur, parce que si j'étais un bon exploiteur,
non,
je serais pas simplement riche.
Ouais, des professeurs quand même.
Bon, c'est pas grand chose comme site, une étiquette. Si on peut y avoir plus cher que le site d'artiste, ça vaut le salaire, pas plus. Et puis ça là commence à plus valoir le titre, hein, fait que
c'est normal.
Putain, on commence à penser à d'autres choses.
Mais t'as envie de retenir le débat au point zéro de l'écriture, ou au point zéro du débat. Et, mais 68-82, on va essayer de se tenir un petit peu à ça quand même.
Il y a eu l'importance croissante du business de l'art aux États-Unis. Mm-hmm. Devenu un marché gigantesque. Les artistes américains sont probablement pas capables, à eux seuls, de produire assez de tableaux, puis de dessins, puis de sérigraphies, puis de lithographies, puis de sculptures, puis tout ça de bébelles comme ça, pour satisfaire le marché américain, le goût américain pour la culture, croyant que l'acquisition d'œuvres d'art, c'est un signe de culture, une preuve de culture. Bon, ils sont toujours obligés d'aller acheter et d'importer massivement, ce qui fait que c'est un boom, une business qui gonfle au coton. C'est une psychose collective. Sentiment d'être inculte. On doit s'en sortir en achetant les signes de la culture.
Mm-hmm.
Bon. Et puis ici, c'est la même chose. Bon, les Québécois en quête d'identité pensent pour plusieurs que ce qui s'appelle la culture, puis qui est jamais clairement défini du bord, que ça va être l'appareil, que la culture va être l'appareil qui va instaurer une identité québécoise. Bon, avec un peu de retard, le restant du Canada se met à agir de même façon, à penser qu'en fabriquant un art canadien, qu'il y aura une culture canadienne. Bon, c'est cette adéquation entre art et culture que je conteste radicalement.
Mm-hmm.
Je conteste que l'art puisse être générateur de culture. L'art est une activité trop superficielle pour être capable d'un travail aussi sérieux que la génération d'une culture.
Et cette activité que tu dis trop superficielle, comment est-elle trop superficielle? Par le fait de ceux qui la font ou par la définition même de l'art?
Ben, actuellement, il y a, une, il y a Il y a une définition. Définition empirique de l'art. On appelle art certaines catégories d'objets. Le mot art sert en même temps à évoquer un concept, une notion. Ça veut dire des objets, les gens disent mon art, ou l'art de Molinari, ou l'art de Henry Moore, comme si Henry Moore.